Chapitre 8. Vous ne le croiriez pas. Le capitaine Pyrrhose humidifia son doigt avec sa bouche et le passa sur la coque vernie de l'étoile de Noël pour enlever une trace invisible. Je ne lui ai pas demandé de répéter. Je ne lui ai pas demandé s'il était certain de l'expertise des médecins légistes, s'il pouvait sérieusement affirmer que Magali Véron était morte étranglée avec cette écharpe rouge avant de tomber de la falaise. Je n'ai rien dit qui puisse éveiller sa méfiance. J'ai juste gardé le silence et repassé devant mes yeux les images des événements depuis ce matin. L'écharpe Burberry accrochée au barbelé sur le sentier de randonnée. Ma main qui hésite, puis la décroche. Cette même main qui la lance à Magali. Celle de Magali qui l'attrape, l'attire, s'échappe. La même 120 mètres et 4 secondes plus bas, enroulée autour de son cou. Parle-en. Une voix m'intimait l'ordre au fond de ma tête. Parle de cette écharpe. Raconte tout à ce flic. Il y a sans doute les empreintes du violeur sur ce morceau de tissu. Mais il y a aussi les tiennes. Les flics vont forcément les trouver. Capitaine Pyrrhose, j'ai ravalé ma salive. Que dire ? Que Magali avait enroulé l'écharpe autour de son cou tout en se jetant de la falaise ? Révéler que j'étais le dernier à avoir touché ce bout de tissu ? Cela revenait à m'accuser. De viol ? De meurtre ? À me foutre dans le pire des merdiers. Oui, monsieur Salaoui ? Encéphalogramme plat sur le front de Pyrrhose. Il m'attendait avec une froideur clinique. J'avais trop hésité. Impossible de plonger. Les arguments m'invitant au silence pleuvaient en averse. Pyrrhose avait parlé de traces de sperme, d'échymose sur la peau de Magali Véron. Les enquêteurs allaient identifier l'empreinte génétique du violeur en moins d'une semaine, sans doute la même que celle de l'assassin de Morgan Avril il y a 10 ans. Je serais innocenté alors. Il serait temps de raconter ma version à ce moment-là. Brusquement, je me suis décidé. J'ai opté pour le changement de cap. Attaquer pour faire diversion. J'ai une question à vous poser, capitaine Pyrrhose. Vous ne trouvez pas que cette histoire ressemble étrangement à l'affaire Morgan Avril, Ypres, juin 2004? Cela doit vous rappeler quelque chose, non? Pyrrhose encaissa. Il n'avait sans doute pas prévu que le coup parte aussi vite, mais il comptera. Vous vous souvenez de cette affaire, monsieur Salaoui? J'ai improvisé. Pas question pour l'instant de lui parler de ce courrier que j'avais reçu. 10 ans après, les habitants d'Ypres ne parlent encore que de cela. Difficile de passer à côté de telles coïncidences, capitaine, non? Le viol, le bain de mer, la robe rouge déchirée. J'ai hésité un instant de trop à poursuivre l'énumération. L'écharpe en cachemire rouge, ajouta Pyrrhose. Une seule et même arme pour les deux crimes. Il me fixa droit dans les yeux. Bien entendu, monsieur Salaoui, nous avons fait le rapprochement avec l'affaire Morgan Avril. On y travaille, faites-nous confiance. Mais comme vous le savez, cette histoire remonte à plus de 10 ans. Dans l'immédiat, si vous voulez bien, nous allons nous concentrer sur le meurtre de Magali Véron. Pyrrhose tourna une nouvelle page de son dossier, comme pour m'accorder le temps de réfléchir. J'ai enchaîné aussi vite que je pouvais. Magali était vivante quand je l'ai croisée en haut de la falaise d'Ypres. J'ai dû gêner son violeur. Il n'a pas eu le temps de l'étrangler. Pas entièrement. Le capitaine me regarda longuement. Son front se plissa en V, formant une flèche vers les expertises médicales de son dossier. Ce n'est pas la version privilégiée par les médecins légistes, monsieur Salaoui. Ils estiment plutôt que Magali est morte asphyxiée, puis ensuite seulement a été jetée sur les galets. Pyrrhose se fendit enfin d'un sourire avant de préciser. Mais je vous accorde qu'il y a un doute. Cela se joue à quelques minutes près. On reparlera de tout cela, ils vont affiner. Nous aussi, monsieur Salaoui. J'ai besoin de la description la plus précise possible de Magali Véron, telle que vous l'avez croisée ce matin. Le capitaine recueillit chaque détail, le lieu exact, les déchirures de la robe, les quelques mots prononcés par Magali. N'approchez pas. Si vous faites le moindre pas, je saute. Vous ne pouvez pas comprendre. Continuez votre route. Partez. Partez vite. Le regard de Magali également. Chacun de ses gestes. Pyrose notait tout. Cela prit plus de 10 minutes. Bien. Très bien, monsieur Salaoui. Il se pencha en avant et du bout de l'index replaça à la barre de l'étoile de Noël un pilote de 5 mm orienté légèrement de 3/4. Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons un peu parler de vous. Il souleva une feuille de son dossier vert. J'ai reconnu le logo qui illustrait la suivante. Celui de l'ITEP Saint-Antoine. Putain. Pyrose me prit à la gorge. Vous travaillez dans un asile, monsieur Salaoui. Non, capitaine. Un institut thérapeutique et éducatif. On n'accueille pas des gamins cinglés, juste des gosses victimes de troubles du comportement caractériel. Vous faites partie du personnel éducatif ? Non, capitaine. Thérapeutique ? Non plus. Je m'occupe de l'entretien. Les voitures, les poignées de porte, les chasses d'eau, vous voyez le genre ? Un bâtiment de 800 mètres carrés, un jardin qui en fait le triple, un parc de sea jumpers. Le capitaine leva son stylo. Il se foutait de mes détails. Vous êtes depuis longtemps à l'Institut Saint-Antoine ? Vous êtes depuis longtemps, avait-il demandé. Pas vous y travaillez depuis longtemps. Je comprenais l'insinuation. J'en avais assez du cache-cache. Ma jambe raide racla d'énervement le carrelage du bureau. Je vais mettre les points sur les i, capitaine. Je n'ai pas passé mon enfance dans cette ITEP. Je ne suis pas un petit gamin timbré dont on ne savait pas quoi faire à ses 18 ans et qu'on a gardé dans la maison. J'ai un CAP maintenance de bâtiment de collectivité. J'ai été embauché il y a 6 ans. Pyrose souffla en direction du grand mât sur le bureau comme pour faire s'envoler une poussière. Il observa un bref instant les voiles de papier se gonfler, puis replongea dans ses notes. Parfait. Recruté sur contingent MDPH en 2008. Vos employeurs m'ont donné tous les détails. Ce con me cherchait. Je devinais dans son attitude les seuls éléments qu'il avait retenus de mon profil, comme s'il les avait surlignés au stylo fluo. Jamal Salaoui, arabe, infirme, bosse chez les fous. Un profil idéal de violeur. Dans la liste des tortionnaires du quotidien, aux dieux vicieux, aux profs sadiques et aux petits chefs fachos, il fallait ajouter les flics réac. Pyrose en rajouta une couche. Monsieur Salaoui, nous n'avons pas eu beaucoup de temps depuis ce matin, mais nous sommes tout de même parvenus à appeler votre supérieur hiérarchique direct, monsieur Jérôme Pinelli. Il est en vacances ? Pyrose me montra pour la première fois ses dents jaunies, presque un sourire. Je l'ai joint à Courchevel, il était dans le remonte-pente de la Tania en direction de la piste noire des Jockeys. Il m'a confirmé. Confirmé quoi, ce connard ? À mon tour de le fusiller des yeux. Votre identité, monsieur Salaoui, votre fonction à l'Institut Saint-Antoine. Un bon point pour vous, vous n'avez pas de casier judiciaire. Impossible de travailler auprès des jeunes dans un établissement spécialisé sans un casier vierge. Cela dit, j'ai eu une furieuse envie de faire valser d'une pichenette tous les gnomes peints qui glandaient sur le pont de l'étoile de Noël. Cela dit quoi ? Jérôme Pinelli a émis des doutes. Qu'est-ce que ce connard avait pu inventer ? Des doutes ? Il m'a parlé d'Ophélie Parodi, une petite de 15 ans accueillie depuis 18 mois dans l'établissement. L'enculé. Me balançait ça, ski au pied, lunettes de soleil vissées sur sa gueule de faux cul. Pyrose enchaîna. Pinelli et lui avaient dû immédiatement s'entendre. Il a sous-entendu que vous êtes très proche de cette petite Ophélie, beaucoup trop proche, au dire des psys de l'ITEP. Que vous avez été plusieurs fois rappelé à l'ordre à ce propos. Mieux qu'une pichenette dans les nains vernis, balancer une gifle dans les trois mâts du bateau rien que pour le plaisir de voir la gueule de Pyrose exploser. Strike. Je suis pourtant resté étonnamment calme. L'image apaisante d'Ophélie, peut-être. Il faudra recouper vos sources, capitaine. Un chef de service n'est pas toujours le mieux placé pour parler de ses employés. J'ai beaucoup d'autres collègues qui vous donneront une version très différente de celle de Jérôme Pinelli. Mais ce que je ne comprends pas, c'est le rapport entre mon job à l'ITEP et la mort de Magali Véron. Ou alors, allez-y clairement, capitaine. Je suis accusé? De quoi? D'avoir poussé cette fille dans le vide? De l'avoir violée pendant que vous y êtes? Pyrrhos passa lentement sa main sur ses cheveux. Ce salaud attendait depuis un bout de temps une telle réaction de ma part. Il prit encore le temps de refermer son dossier vert. « Doucement, doucement, monsieur Salaoui. Pour l'instant, vous êtes seulement le principal témoin d'une affaire, disons, pour le moins compliquée. Le seul à avoir vu sauter de son plein gré Magali Véron, le seul à parler d'un suicide, ce qui contredit la thèse principale des experts. Pour l'instant ? Soyez lucide, monsieur Salaoui. Avec tous les éléments que je possède, l'attitude la plus raisonnable pour un enquêteur serait de vous coller en garde à vue. » Je suis retombé au fond de ma chaise, sonné. Vous courez vite, monsieur Salaoui, même sur une seule jambe, c'est dans votre dossier. Si vous êtes le violeur et que je vous laisse filer... Pyrrhos sentait qu'il avait pris l'avantage. Il ne s'en priva pas. Alors avant de m'accuser de harcèlement, monsieur Salaoui, évaluez bien la situation. Votre situation. Je vais prendre le risque de vous laisser en liberté et d'attendre quelques heures, le temps de comparer quelques empreintes génétiques. Je veux vous revoir demain, 14h, dans ce bureau. » Il se leva d'un coup, attrapa le dossier vert, puis fit le tour du bureau et se plaça derrière moi. « Il vous est arrivé quoi, monsieur Salaoui ?»« Comment cela ?»« À la jambe, je veux dire. » Je n'aimais pas la façon dont il me regardait. Sur le bureau de Pyrrhos, une feuille volante s'était retrouvée au-dessus de la pile de dossiers. Elle m'intrigua. Elle était blanche, à l'exception d'un tableau de 4 cases dans lequel 8 chiffres étaient inscrits. 2-2-3-0-0-3-1-1. Une sorte de casse-tête mathématique. Pyrrhos pratiquait le sudoku pour occuper les derniers mois avant sa retraite. Vous ne m'avez pas répondu, monsieur Salaoui. J'ai dû me tordre le cou pour lui parler. Une bavure, capitaine. Un flic m'a tiré dessus, je sortais d'un braquage, la BNP rue Soufflot, dans le 5e. Je courais déjà vite à l'époque, mais pas assez, faut croire. J'ai gardé un casier vierge parce qu'on ne m'a pas reconnu. Je portais un masque de Betty Boop. Vous vous foutez de ma gueule. Je dédramatise. Pyrrhos haussa les épaules, avança et ouvrit un tiroir. Tenez, en parlant de Betty Boop. Il me balança un vieux Playboy entre les mains. Vous allez faire un tour dans la salle d'à côté et me remplir une éprouvette.
De sperme ?
Ouais, pas de chantilly. La demande de Pyrrhos me semblait presque surréaliste. C'est la procédure habituelle ? Vous voulez quoi, Salaoui ? Que je vous la tienne ? Et si je refuse ? Le capitaine soupira. Quel intérêt vous auriez à refuser, Salaoui, si ce n'est pas votre sperme qu'on a retrouvé dans le vagin de Magali Véron? Vous allez aussi tendre vos mains vers moi. Je dois vous couper moi-même un morceau d'ongle et des cheveux. J'ai roulé le Playboy entre mes mains. Il avait raison. Je n'avais rien à me reprocher. Tout serait beaucoup plus simple ensuite, lorsqu'ils auraient comparé mon ADN avec celui du violeur. Je ferai alors ravaler à Pyrrhos, à Pinelli et à tous les autres leurs insinuations. Du moins, c'est ce que je croyais. Comment aurais-je pu alors penser le contraire? Mon sperme, mes cheveux, mes ongles, aucun n'avait touché ni même approché cette fille. Depuis, j'ai beaucoup repensé au regard de Denise quand je lui avais parlé du suicide de Morgan Avril. Ce regard où je lisais sa consternation de me découvrir aussi naïf. Elle avait raison. Naïf. Être innocent, n'avoir rien fait de mal, n'avoir rien à se reprocher, ne suffit pas. Pas de fumée sans feu. Peu importe les preuves, peu importe la vérité, le doute s'insinue. Malgré tout. Malgré vous. Car à bien y réfléchir, n'est-il pas plus facile de croire la version des flics et des experts plutôt que celle d'un arabe infirme qui bosse chez les fous ?